Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour. La Macédoine du Nord, petit pays du sud des Balkans, appelle ses citoyens aux urnes ce 8 mai pour le second tour de la présidentielle et les législatives. Un double scrutin très important, susceptible de bousculer le paysage politique et la relation avec l'Union européenne. Après deux mandats de gouvernement social-démocrate, la droite nationaliste pourrait en effet revenir au pouvoir. Enclavée entre la Serbie, l'Albanie, la Grèce et la Bulgarie, la Macédoine du Nord a obtenu le statut de candidat à l'adhésion à l'UE il y a 20 ans déjà. Depuis, elle patiente. Et les points de blocage politique successifs, venus notamment d'Athènes et de Sofia, ont terni l'image de l'Union européenne dans la population. Mais même si cette dernière fait moins rêver, les jeunes Macédoniens gardent l'espoir de rejoindre les 27. Reportage à Skopje de Louis Seyé.
Dans le centre de Skopje, le drapeau avec le soleil macédonien et celui aux étoiles de l'Union européenne s'affichent ensemble et en grand sur la maison de l'Europe. Le slogan « L'Union européenne pour toi » intrigue Emilia sans trop la convaincre. Cette jeune étudiante en médecine est venue se renseigner pour la suite de ses études.
Dans l'ensemble, je suis plutôt en faveur de l'intégration à l'Union européenne. Je pense que ça ouvrirait beaucoup d'opportunités et je pense que ce serait globalement utile pour notre pays. Par exemple, en matière d'éducation, ce serait peut-être plus facile d'aller étudier dans différents pays d'Europe. Parce que moi, je suis étudiante et c'est la principale opportunité que je recherche.
Можеš li da zamisliš? Секако дека можеш. Ова го направивме заедно.
La Macédoine du Nord a déposé sa candidature il y a maintenant plus de 20 ans. Les années passent, mais la jeunesse de Skopje continue de croire aux vertus de l'intégration. Dans un pays où le salaire moyen atteint à peine 640 euros, certains jeunes comme Agon espèrent surtout que l'adhésion aura un impact sur l'économie locale.
Pour moi, rejoindre l'Union européenne, ça permettrait surtout d'élever notre niveau de vie. Parce que si on arrive à remplir les conditions économiques qui sont demandées pour intégrer l'Union européenne, ça va élever nos standards, les salaires, mais aussi les conditions de travail des employés.
En 2020, la Macédoine du Nord a finalisé son adhésion à l'OTAN, mais son chemin vers l'Union européenne s'est transformé en un parcours d'obstacles, marqué par les querelles historiques avec ses voisins balkaniques. En 2018, le pays a ainsi accepté de changer officiellement son nom, en mettant fin à la dispute qui l'opposait à la Grèce autour de l'héritage de la Macédoine antique. Mais les promesses d'adhésion ne se sont pas concrétisées. Après un veto français, c'est la Bulgarie qui demande aujourd'hui un changement constitutionnel pour garantir les droits de la minorité bulgare. À 23 ans, Dimitri étudie à l'Université de l'Europe, située juste en face de la délégation de l'Union européenne à Skopje.
On a changé le nom de notre pays, on a tout changé et rien ne s'est passé. Et à mon avis, ce n'était pas si bien de changer le nom du pays, parce que c'est l'identité même des gens. Les gens se sentent trahis. On a le sentiment que les Grecs et les Bulgares ont été malhonnêtes dans leurs déclarations sur la possibilité pour la Macédoine d'adhérer à l'Union européenne.
Ce ressentiment envers l'Union européenne monte dans la société, mais il reste minoritaire. Pour beaucoup de Macédoniens, et notamment les jeunes, l'Union européenne reste synonyme d'état de droit et de lutte contre le fonctionnement clientéliste. D'après le Centre macédonien pour la coopération internationale, la corruption est la préoccupation numéro un des citoyens macédoniens. Berkay, 22 ans.
Pour être accepté par l'Union européenne, il ne suffit pas de changer le nom du pays. Si on veut vraiment être européen, il faut d'abord qu'on change nous-mêmes. On n'a pas vraiment la même mentalité que les citoyens européens. Parce qu'ici, si vous connaissez quelqu'un en politique, eh bien la loi ne s'applique pas pour vous. Les lois ne vous concernent pas si vous avez des contacts dans la classe politique.
Lors des élections de ce printemps, le parti de droite nationaliste compte surfer sur les frustrations liées aux promesses non tenues de l'Union européenne. Mais s'il revient au pouvoir, il devrait lui aussi adopter un positionnement pro-européen à l'image de la société macédonienne. Simonida Kaczarska est directrice de l'Institut de politique européenne de Skopje.
15 ans après avoir obtenu le statut de candidat, nous avons ouvert les négociations d'adhésion en 2022. Mais nous n'avons toujours pas vraiment entamé la moindre discussion juridique. Je pense que personne ne sait ce que veut dire ouvrir un chapitre en langue européenne. Cela explique ces 30% de la population qui, dans les sondages, répondent qu'ils ne croient pas que leur pays deviendra membre de l'Union européenne de leur vivant. C'est en fait un miracle que nous ayons réussi à maintenir un soutien de 65 à 70% en faveur de l'adhésion à l'Union européenne. Car pendant des années, l'Union européenne était largement désengagée de la région. Et dans le même temps, notre pays devait lutter avec les nombreuses demandes bilatérales de nos voisins. Donc en ce sens, je dirais que nous sommes une société très pro-européenne dans la région.
Comme presque à chaque élection depuis 20 ans, l'Europe a été l'un des principaux sujets de la campagne électorale. Mais pas sûr que ce scrutin 2024 passionne la jeunesse locale. Plutôt que d'attendre une intégration encore lointaine, les jeunes Macédoniens préfèrent souvent émigrer au sein des pays de l'Union européenne. Entre 2012 et 2022, le pays a ainsi perdu 11% de sa population, selon Eurostat.
Europa ! Europa !
À l'approche du 9 juin, Accent d'Europe vous donne comme chaque semaine rendez-vous avec les jeunes électeurs et électrices de l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est en France avec Jonas qui s'est lancé il y a un an dans l'agriculture biologique. Quand les agriculteurs venus de toute l'Europe ont manifesté à Bruxelles au début de l'année, Jonas était là pour réclamer à la Commission davantage d'investissements pour les petites et moyennes exploitations.
Je m'appelle Jonas, j'ai 27 ans et je suis maraîcher dans le nord de la France.
Il n'y a pas assez d'installations par rapport au nombre de départs à la retraite. On a un nombre de fermes en France qui est en chute libre. Le principal point de blocage pour l'installation des jeunes agriculteurs, c'est l'accès à la terre. C'est vraiment une grosse problématique. Nous, on a eu des facilités. Là, on est sur des terres qui appartiennent à la famille de mon collègue. On n'aurait pas eu le foncier de la famille, on n'aurait pas eu nos économies, on n'aurait pas eu l'accès à la banque. Ce projet n'était pas réalisable. Pour moi, les réponses qui ont été amenées, elles résolvent rien sur le revenu et elles résolvent rien sur les problématiques environnementales. Le peu de mesures qu'il y avait pour limiter l'emploi des pesticides, on revient dessus. Et au contraire, on continue à encourager l'agrandissement des fermes, la disparition des petites fermes. Et du coup, on est en train de créer des entités énormes qui seront invendables par la suite, à part à des sociétés financières qui arriveront avec des capitaux de l'extérieur. Voilà, on est en train de construire des énormes machines de production qui seront inaccessibles pour des jeunes qui voudraient se lancer dans l'agriculture après. Ce que j'aspire pour l'avenir, pour l'agriculture en Europe, c'est que ce soit une agriculture qui permette une souveraineté alimentaire, qui se relocalise, qui soit plus dépendante de marchés internationaux, mais qui cherche à nourrir la population européenne. Voilà, une agriculture qui pratique l'agroécologie, donc en respectant le climat, la biodiversité et les sols. Et après, si le travail est moins pénible et que j'arrive à en vivre, moi, je ferai bien ça longtemps.
Un portrait à retrouver en intégralité et en vidéo sur les comptes de notre partenaire Enter, le média européen des jeunes, sur les réseaux sociaux. En Italie, l'accès déjà limité à l'IVG est de plus en plus remis en cause. Le 23 avril dernier, le Parlement a voté un amendement qui permet aux associations anti-avortement d'intervenir dans les centres de planification familiale. En Émilie-Romagne, l'une des rares régions où cet accès est encore correctement garanti, la décision provoque l'inquiétude. Ce 8 mai, jour de fête des mères en Italie, des militantes organisent un rassemblement pour contrer l'influence des groupes anti-avortement. Notre correspondante Cécile Debarge a assisté aux préparatifs dans la ville de Modène. Reportage.
Le rendez-vous est fixé à l'Eretica, un local associatif dans l'ouest de Modène. Dans la petite salle du premier étage, les militants sont une vingtaine. Ce soir-là, les comités de Carpi, Reggio Emilia et Bologne se sont joints aux discussions. Premier point à l'ordre du jour, organiser une soirée à destination des femmes pour les informer sur la réalité de l'avortement. Luciana milite depuis près de 10 ans au sein de Nonnuna di Meno.
Il y aura une psychologue, l'avocate de la Maison des femmes contre la violence et les obstétriciennes
viennent de l'hôpital Policlinico.
Une militante résume l'objectif en ces mots, organiser un grand moment d'information sur l'avortement pour faire suite à la désinformation massive des dernières semaines. Car depuis 6 mois, les groupes d'IPROVI ont été particulièrement actifs à Modène. Pour la première fois en Italie, l'association 40 jours pour la vie a organisé des veillées devant l'hôpital Policlinico qui pratique des avortements.
C'était de 7h du matin à 7h du soir. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils se mettaient là pour prier pendant des heures. Et une militante sur place nous a également informé qu'ils faisaient signer des pétitions.
Les premières veillées ont lieu en octobre et novembre, puis de nouveau en février et mars, soit au total 80 jours de prière anti-avortement au pied de l'hôpital. Le 10 mars dernier, le groupe organise même une assemblée publique sur le syndrome post-avortement. Victoria a assisté à cette conférence pour opposer à cette théorie des chiffres et des études.
Cette conférence parlait essentiellement du syndrome post-avortement. De quoi s'agit-il ? D'un mensonge. Car ça n'existe pas. Nous nous sommes informés, documentés et ça n'existe pas. Eux ont comparé ce syndrome post-avortement au syndrome de stress post-traumatique.
Une grande campagne d'affichage dite pro-vie a aussi été organisée à Modène. Sur les murs de la ville, s'est tiré les photos d'un fœtus accompagné de la légende suivante « 9 biologistes sur 10 me considèrent comme un humain. Et toi ?» Chaque fois, les militantes transféministes se mobilisent, organisent des contre-manifestations, s'invitent au conseil municipal pour demander le retrait de la campagne d'affichage. Dans ce contexte, elles n'ont pas été surprises par l'adoption récente d'un amendement qui permet à ces groupes d'intervenir dans les centres de consultation familiale pour y conseiller les femmes désireuses d'interrompre leur grossesse. Victoria.
C'est violent quand nous est arraché notre liberté de la sorte. La terre s'est dérobée sous mes pieds quand j'ai compris que c'était devenu une réalité.
Effettivamente era diventata realtà questa cosa.
Pour Luciana, l'actuel gouvernement de Giorgia Meloni donne son blanc-seing à ces groupes conservateurs.
Déjà que le droit à l'avortement n'est pas garanti dans toutes les régions, dans toutes les villes, si en plus il donne carte blanche de cette manière aux anti-avortements, c'est vraiment violent.
En Italie, l'avortement est autorisé par la loi 194, adoptée en 1978. Dans les faits, il est depuis longtemps difficilement accessible dans de nombreuses régions. 63% des gynécologues et obstétriciens sont objecteurs de conscience dans le pays, c'est-à-dire que, pour des raisons religieuses ou personnelles, ils peuvent refuser de pratiquer une interruption volontaire de grossesse ou même de délivrer le certificat médical préalable à une IVG. Dans les Abruzzes, en Basilicata, en Sicile, à Bolzano ou dans le Molise, ce chiffre dépasse les 80%. Les centres de consultation familiale jouent alors un rôle clé. En Émilie-Romagne, ils délivrent 70% des certificats médicaux dont les femmes ont besoin avant de pouvoir effectuer une IVG. Victoria.
Nous nous sommes proposés d'accompagner les personnes qui en auraient besoin, d'aider les personnes qui avaient eu de mauvaises expériences ou celles qui avaient peur d'informer sur le sujet, parce que cette situation dans les centres a déstabilisé pas mal de monde.
Même en Émilie-Romagne, certaines femmes ne savent plus vers qui se tourner si elles désirent interrompre leur grossesse. Victoria et les autres vont donc créer un canal Telegram pour y échanger toutes les informations pratiques.
Ce groupe se propose de recenser et de lister tous les lieux sûrs pour trouver une consultation dans un planning familial, voir un médecin ou pour prendre la pilule du lendemain.
Si les militantes n'entendent pas céder un pouce au groupe dit pro-vie, elles regrettent toutefois que l'adoption de cet amendement ne suscite pas beaucoup de mobilisation en Italie. Victoria a rejoint Nonnuna di Meno cet hiver lorsque des centaines de milliers de personnes se sont mobilisées contre les violences faites aux femmes après le féminicide de l'étudiante Giulia Cecchettin.
À la différence de la mort de Giulia Cecchettin qui, bon an, mal an, a secoué toute l'Italie, cette fois, pas du tout. Même pas la moitié de la mobilisation précédente. C'est absurde.
Dans les régions où la coalition gouvernementale est au pouvoir, les associations dites pro-vie ont déjà pénétré les centres de consultation familiale. Dans le Latium ou dans les Marches, des femmes ont dénoncé des entretiens au cours desquels elles avaient été contraintes d'écouter les battements du cœur du fœtus. Avec cet amendement, les militantes craignent que ces pratiques anti-avortement ne se généralisent du nord au sud du pays.
Puso en alerta a los Mossos d'Esquadra y entonces no descartaron desde el principio el hecho de que fuese violencia vicaria.
Dans la défense des droits des femmes, l'Espagne est souvent montrée en exemple. En 20 ans, le pays a réussi à faire baisser le nombre de féminicides. Et il se saisit aujourd'hui d'un autre drame qui touche les enfants, la violencia vicaria. C'est le sujet de notre chronique en un mot. La violencia vicaria, qu'on peut traduire en français par violence de genre, par procuration, c'est le fait qu'un homme s'en prenne à ses enfants pour faire souffrir sa femme. Depuis le début de l'année, on recense déjà 7 enfants morts dans des affaires de ce genre. Des chiffres qui inquiètent les autorités et les experts. Les explications d'Élise Gazangel.
Bien, se confirma lo que decía la compañera Isa, de que efectivamente se trata de nuevo caso de violencia vicaria.
C'est un terme qui est désormais passé dans le langage courant en Espagne. Violencia vicaria, littéralement la violence par procuration. Elle désigne les cas de violence, souvent d'assassinat d'enfants commis par leur père, spécialement lorsqu'ils sont mineurs, dans le but de faire du mal à la mère. Dans le pays, ces crimes sont considérés comme des violences de genre déplacées vers l'enfant et qui arrivent généralement dans les procédures de rupture ou lorsque l'agresseur n'a plus la possibilité de violenter directement la mère.
Sonia Baccaro est psychologue forense, experte en lo que se conoce como violencia vicaria. Sonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos qué es exactamente la violencia vicaria, ¿por qué se llama así?
Conceptualisée en 2012 par la psychologue Sonia Baccaro, l'expression violencia vicaria a permis aujourd'hui de mieux pouvoir lutter contre le phénomène, selon Carla Bail, avocate barcelonaise spécialisée en violence de genre.
Il faut être responsable. Le fait de nommer les choses les rend réelles. Quand on donne à la question un cadre théorique correct, quand on explique, ça devient plus facile pour la société dans son ensemble qui peut identifier le problème. Mais ça permet aussi de s'en saisir d'un point de vue juridique et social et ça clarifie les choses.
Pour l'experte qui défend principalement des femmes victimes de violences, ses clientes elles-mêmes sont désormais plus attentives aux risques qu'encourt leur progéniture.
Avant, énormément de mères refusaient d'admettre le fait qu'un agresseur ne peut pas être un bon père. Elles pensaient que la violence leur était destinée seulement à elles et en plus elles pensaient qu'elles la méritaient. Elles se croyaient responsables de la situation et donc n'essayaient pas de protéger leurs enfants. Depuis, il y a eu un changement de paradigme important.
Carla Bail situe ce changement aux alentours de 2018 avec l'affaire Angela González. À l'époque, après 15 ans de combat, la Cour suprême espagnole avait enfin reconnu la responsabilité de l'État dans la mort de sa fille de 7 ans, tuée en 2003 par son père, alors que la mère avait porté plainte 51 fois et réclamé qu'il ne puisse voir sa fille sans surveillance. Depuis, l'avocate pense que la justice a pris conscience du problème. Les suspensions des droits de visite des pères agresseurs sont de plus en plus courantes.
Il y a eu de grandes avancées dans le pays. La semaine dernière, d'ailleurs, on a eu un verdict inédit. Une juge de Barcelone a suspendu le droit de visite d'un père et elle a pour la première fois écrit en annexe du jugement une lettre à la fille du couple en lui expliquant simplement qu'elle ne serait plus obligée de revoir celui qui lui faisait peur et qui avait fait du mal à sa mère.
Hola, muy buenos días. 4 niñas y 3 niños asesinados por violencia vicaria desde enero.
Mais ces avancées ne freinent malheureusement pas le phénomène. Depuis le début de l'année, dans le pays, 7 enfants ont été tués par leur père dans des affaires de violencia vicaria. Une augmentation des cas qui inquiète le gouvernement. Ana Redondo, la ministre espagnole de l'égalité, a même réclamé mi-avril l'union des partis politiques, comme elle avait eu lieu pour la loi contre les violences de genre.
Nous devons renforcer le pacte d'État contre les violences de genre en y intégrant d'autres mesures qui prennent en compte cette violence par procuration, car c'est une réalité et elle est en augmentation.
Une triste réalité, mais qui, selon l'avocate, est au moins nommée et prise à bras le corps, contrairement aux pays voisins.
Malgré tout, je pense que nous sommes un pays très progressiste socialement. Il n'y a pas, à la base, ici, une société conservatrice qui pense que les femmes méritent tout cela. Et le contraste est fort avec les pays voisins. Désolé, la France, l'Italie, que ce soit sur la protection des droits des enfants comme de ceux des femmes, nous sommes à des années-lumière.
L'avocate se veut optimiste et espère que l'Espagne fera bientôt figure européenne de pionnière dans la lutte contre ces violences par procuration.
À la réalisation d'Accent d'Europe, Jérémy Boucher. Vous pouvez retrouver l'émission sur tous les réseaux sociaux de RFI et sur l'appli Pure Radio. À bientôt.